Chapitre 8. La chasse. Aléa fut réveillée par le hennissement d'un cheval. Elle se dressa brusquement et vit que Mjoln dormait encore, paisiblement, à côté d'elle. Elle se dirigea sur la pointe des pieds vers la sortie de la grotte. Les druides l'avaient-ils déjà retrouvée? Ou étaient-ce simplement d'autres voyageurs? Elle attendit que ses yeux s'habituent à la lumière du jour, puis plaquée à la paroi, sortit la tête au dehors.
« Bonjour, mademoiselle !»
Félim et Galiad étaient assis dans l'herbe devant la grotte. Ils mangeaient du pain au raisin sous le soleil de l'été et attendaient sans doute depuis un moment que la jeune fille et le nain se réveillent. Deux chevaux et deux poneys étaient attachés à un arbre derrière eux.
« Comment m'avez-vous retrouvé ?»
demanda Aléa, stupéfaite, alors que Mjoln se réveillait à son tour.
« Galiad est un très bon pisteur !»
La jeune fille adressa un regard au Magistel. Était-ce Erwan, son fils, qui l'avait prévenu de sa fuite? Mais elle ne vit ni reproche ni colère dans les yeux de Galiad. L'homme portait une armure complexe et lourde, enfilée par-dessus un grand haubert de maille. C'était un assemblage de plaques de métal articulées qui épousaient toutes les parties de son corps, une pièce somptueuse qui, cependant, semblait faite davantage pour la guerre que pour une fuite à travers bois. À sa taille était accroché Bantral, son épée légendaire, dont on ne voyait que la garde, argent incrusté d'or, et son pommeau, large pièce dorée où l'on distinguait la gravure d'un dragon rouge. C'était une épée longue et large, épaisse, mais probablement aiguisée à la perfection. Tout ce poids ne semblait pourtant pas gêner le charismatique guerrier. Aléa devinait qu'il était le type d'homme qui ne se plaigne jamais, et elle se souvint des histoires incroyables que Mjoln lui avait racontées à son sujet. Puis elle dévisagea Félim. Le druide avait toujours son sourire discret, son regard profond. Rien ne semblait pouvoir perturber la quiétude du vieil homme. La veille, pourtant, Aléa l'avait bien vu s'emporter dans la chambre du conseil.
« Je n'ai pas l'intention de revenir à Saïmina, Félim.
Je ne suis pas venu pour te ramener, ni te convaincre de quoi que ce soit. » Nous sommes venus pour t'aider et te protéger.
Je n'ai pas besoin qu'on me protège, se défendit Aléa.
Si nous t'avons trouvé, les autres druides te trouveront aussi. Nous avons amené ces chevaux pour que tu puisses fuir avec nous.
Vous voulez fuir, vous aussi? S'étonna la jeune fille. Vous avez quitté le conseil?
Disons que je me suis éclipsée discrètement après ton départ. Aileen a envoyé trois magistels à ta poursuite, et nous devons prendre de l'avance si nous ne voulons pas qu'ils nous rattrapent.
Pourquoi vous ferais-je confiance? Vous êtes un druide, vous aussi.
Si j'avais voulu te livrer à mes frères, je l'aurais fait hier soir quand tu te cachais dans la mezzanine de la chambre du conseil,
riposta Félim.
Il est grand temps que nous nous fassions mutuellement confiance, Aléa, tu ne crois pas? Je suis parjure à mon serment au conseil en venant ici, et c'est un sacrifice qui mérite au moins ton respect. Tu nous l'as suffisamment prouvé, tu n'es plus une enfant.
Aléa se tourna vers l'intérieur de la grotte et appela Mjoln pour le réveiller. Le nain sauta de joie en voyant le druide.
Félim, mon bon druide! Ah oui, c'est un vrai plaisir! Quelle aventure! Félim, j'y comprends plus rien! Il est temps que nous mettions de l'ordre dans tout ça. Parole de Mjoln! Et bonjour à vous, Galiad. Hum.
Mais Aléa reprit la parole, coupant le nain dans sa bonne humeur.
En ce qui me concerne, j'irai à Providence. C'est là que je voulais aller au départ, et c'est là que je serai aujourd'hui si je ne vous avais pas écouté. Peut-être même aurais-je déjà retrouvé Amine.
À Providence, tu ne seras pas protégé. Le conseil te retrouvera sans peine. Sans parler des Érylim envoyés par Maol Morda.
Félim, vous m'avez déjà détourné une fois de ma route et cela ne m'a pas porté chance. Cette fois-ci, j'irai à Providence, rien ne pourra m'en empêcher.
Le druide soupira et Galiad prit la parole à son tour, de sa voix grave et autoritaire.
Alors laissez-nous au moins vous accompagner. Ainsi, vous aurez un cheval et notre protection.
Aléa jeta un coup d'œil au nain. Évidemment, Mjoln la suppliait du regard. Il aurait fait n'importe quoi pour voyager avec un druide et un magistel à ses côtés. C'est d'accord.
céda finalement la jeune fille. « Vous pouvez nous accompagner. Mais je le répète, vous ne m'empêcherez plus d'aller où j'en ai envie. Je ne vous fais plus confiance, Félim. Pas plus à vous qu'à votre conseil. Vous voulez rester avec nous ? Soit, mais n'essayez plus de me faire dévier de ma route. »
« Nous devons partir sans plus attendre, » expliqua Félim pendant que Galliad sellait les chevaux.
« Mais ne crois pas nous faire une faveur, Léa. Tu ne me fais plus confiance. Je t'ai pourtant sauvé la vie plusieurs fois, petite fille. Une fois contre des brigands et une autre contre des gorgounes. Je t'ai aussi évité le manite de Gaba, qui t'aurait sans doute coûté la vie. Que tu t'entêtes à vouloir aller à Providence, soit. Mais n'oublie pas que tu t'adresses à un druide et que ma patience a des limites. Maintenant, préparez tous deux vos affaires et mettons-nous en route. »
Aléa ne sut que répondre. Le druide était suffisamment impressionnant pour qu'elle décide qu'il valait mieux se taire, tout simplement. Elle se retourna et rejoignit Mjoln pour rassembler leurs affaires. Quelques instants plus tard, Aléa montait sur le poney que Galliad avait mené vers elle. Le guerrier aida la jeune fille, vit qu'elle n'était sans doute jamais montée à cheval et la rassura en lui donnant les rênes.
« C'est une femelle. Elle s'appelle Dulia et c'est la plus douce de tout le royaume, tu verras. Tu as appris à te battre plus vite que la plupart de mes élèves. Tu sauras donc très vite diriger ce poney, j'en suis sûre. »
« Merci, Galliad, » répondit Aléa, pas tout à fait rassurée. Quant à Mjoln, il avait déjà sauté sur le dos de son poney. C'était un fameux cavalier, et il parlait maintenant à l'oreille de sa monture.
« Quel que soit le nom que vous donniez à ce poney, dorénavant pour moi, il s'appellera Alragan. Voilà !»
Galliad parut surpris. Il regarda le nain de haut en bas et vit qu'il n'avait besoin d'aucune aide. Ils se mirent tous en route sans plus attendre, laissant le magistel ouvrir la voie, le poing posé sur le large pommeau de son épée. Imala avança toute la soirée vers le village qu'elle apercevait au loin, alternant galop énergique et petit trot reposant. Elle était pleine de force. Les jours passés avec les verticaux de la forêt lui avaient donné une forme exceptionnelle, et elle continua ainsi jusqu'à la ville sans s'arrêter. Elle arriva à quelques foulées de la grande porte avant l'aube et se coucha au milieu de la lande pour dormir jusqu'au lever du soleil. Au petit matin, elle fut réveillée en sursaut par les rires d'une enfant. Elle se dressa d'un bond et aperçut plus loin une jeune verticale qui jouait devant le village avec un cercle de bois qu'elle faisait rouler sur la lande à l'aide d'un bâton. C'était une petite fille brune, et la louve se sentit aussitôt en confiance. Puisque les grands verticaux de la forêt ne lui avaient fait aucun mal, il n'y avait aucune raison qu'une jeune femelle soit dangereuse, pensa-t-elle. Imala s'approcha toutefois avec prudence, puis se tapit à quelques pas de l'enfant qui ne l'avait toujours pas vue. Après que la petite fille eut fait plusieurs tours avec son cerceau, Imala trouva le jeu amusant et eut envie de courir avec la jeune verticale. Elle se dressa de nouveau sur ses pattes et se mit à galoper vers l'enfant en remuant la queue et en faisant des bonds, tel un jeune louveteau cherchant à s'amuser. La petite fille aperçut soudain l'animal et poussa un cri d'horreur strident.
« Allô !»
Imala ne comprit pas le sens de cette phrase-là, et bien qu'elle sentît la peur de la petite fille, elle crut qu'elle pourrait tout de même jouer et continua de galoper autour de l'enfant. La petite fille lâcha aussitôt son cerceau et s'enfuit vers le village. Imala n'y vit là qu'un geste ludique et galopa derrière elle, la langue pendante. Elles coururent ainsi l'une derrière l'autre jusqu'à l'entrée du village, la première hurlant de frayeur et la seconde faisant des bonds joyeux. Quand elles franchirent les portes du village, Imala hésita un instant. Elle comprit qu'elle entrait dans le domaine des verticaux, et sa confiance envers eux n'allait sans doute pas aussi loin. Mais elle n'eut pas le temps de décider quoi que ce fût. Deux verticaux jaillirent de derrière la porte, armés d'une fourche et d'un bâton, et la louve évita de justesse un violent coup sur le crâne. Elle eut un instant de confusion, où elle se demanda si cela aussi voulait jouer, puis elle reçut un coup violent sur l'échine. Imala émit des jappements de douleur en tombant sur le sol. Elle ne comprenait pas la violence soudaine des verticaux qui s'étaient tous montrés si amicaux jusqu'à présent. Terrorisée, elle se coucha sur le dos les quatre pattes en l'air, en signe de soumission. Mais au lieu de savourer simplement leur victoire, les deux verticaux la frappèrent de plus belle et Imala reçut un coup de fourche dans le flanc. La louve hurla de douleur.
Cette fois, elle décida de s'enfuir et déguerpit en boitant, blessée dans son corps et dans son âme. Les deux verticaux la poursuivirent encore jusqu'au milieu de la lande, puis ils abandonnèrent et Imala partit se réfugier dans un bosquet où elle essaya de soigner sa plaie. Les quatre compagnons galopèrent jusqu'au soir en direction du sud-ouest. Le sable blanc de la garrigue se soulevait derrière les sabots de leurs chevaux. Galliad avait choisi de s'éloigner de la rivière pourpre pour passer à travers champs, là où il y avait moins de chances de croiser des voyageurs, si bien qu'à la mi-journée, ils purent apercevoir d'un côté la silhouette pointue des montagnes de Gordraka et de l'autre, la mer, qui reflétait à l'est le cercle brillant du soleil. Aléa demanda au Magistel de s'arrêter un instant afin qu'ils puissent admirer le phénomène. L'astre allumait 1000 chandelles sur les flots bleutés. On dirait une île sur la mer. L'île du Mont-Tombe doit ressembler à cela. Quand j'aurai vu Providence, c'est là que j'irai, déclara Aléa avec une note de défi dans la voix.
Ah oui ? Demanda Félim. Et pourquoi ?
Pour apprendre. Je veux aller à l'université. Le druide faillit répondre, mais il se retint. Il aurait voulu lui dire que ce qu'elle pourrait apprendre auprès des moines chrétiens du Mont-Tombe ne valait certainement pas ce qu'on aurait pu lui enseigner à Saïmina, mais il sut d'avance que la jeune fille aurait mal réagi. Après tout, il se demandait à présent lui-même s'il pouvait y croire. Le conseil ne semblait pas avoir à l'égard d'Aléa des intentions réellement pédagogiques, pensa-t-il avec ironie. « Vous n'aimez pas les chrétiens et leur université, n'est-ce pas ?» glissa malicieusement Aléa à l'attention du druide. Félim se demanda si la jeune fille n'avait pas lu dans ses pensées.
« Il se montre très agressif. Et puis, disons que nous sommes en désaccord avec leur philosophie.
« Pourquoi ?» insista Aléa.
« Parce qu'elle nie l'existence de la Moïra. Ils croient que leur Dieu seul est créateur de toutes choses. De plus, leur enseignement se fait par l'écrit. Or, nous, druides, pensons que l'écrit est la mort du savoir. Que ce qui est couché sur le papier est fixé, et donc mort, alors que la vraie connaissance ne doit pas être fixe, elle doit évoluer. Notre enseignement est oral, et il se transmet dans l'intimité du maître et de l'apprenti. Tu comprends ?
Et s'ils avaient raison ? Si la Moïra n'existait pas ?
Le pouvoir qui t'a permis de sortir de Saïmina est à lui seul la preuve que le Mont-Tombe se trompe. Ce qui est embêtant, c'est leur prosélytisme. Combien de jeunes gens ressortent chaque année de cette île le crâne empli d'idées fausses ?
Aléa acquiesça sans conviction. Elle se demandait si la méthode du Mont-Tombe n'était pas malgré tout meilleure que celle des druides. Au fond d'elle, elle ne changea pas d'avis. Elle avait beau sentir la présence bien réelle de la Moïra, elle irait un jour au Mont-Tombe, parce que depuis qu'elle avait rencontré ses étudiants le jour de son départ, elle voulait apprendre à lire, et que seuls les chrétiens pouvaient le lui permettre.
« Allons !» intervint Galliad en remontant à cheval. « Ce n'est pas le moment de traîner. Si nous voulons arriver à Providence sain et sauf, il faut repartir tout de suite. Je ne sais si les magistels sont derrière nous, mais je suis presque sûr qu'on nous surveille. »
« Oui, j'ai moi aussi cette impression, » confessa Félim en promenant un regard circulaire sur la plaine.
« Aléa, tu ne sens rien ?»«
Non, » avoua Aléa qui était surprise que le druide lui ait posé la question. « Lui faisait-il donc confiance ?»«
Ne perdons pas de temps, » conclut Félim.
Ils remontèrent à cheval et partirent au galop vers le sud. Aléa avait encore de la peine à s'habituer aux secousses de son poney. Mais cela ne l'empêchait pas d'admirer le paysage étonnant de l'Est galatien. Il y avait plus de végétation ici que dans la plaine qui entourait Saratea, et la mer était proche. La jeune fille découvrait pour la première fois le plaisir de traverser un paysage au galop. C'était comme une contrée imaginaire qu'on survolait en rêve. Tout défilait autour d'elle, insaisissable, presque flou. La vitesse et le vent étaient enivrants et embellissaient certainement le monde sous ses yeux. Elle se laissait gagner par des bouffées d'émotion chaque fois que les chevaux les portaient dans un nouveau décor. Les regrets, alors, lui revenaient, vacillants, comme les flammes d'un feu de camp. Saratea, Amine, la vie réconfortante dans l'auberge de Kerry et Tara. Mais surtout, pourquoi n'avait-elle pas essayé de convaincre Erwan de partir avec elle? Sans doute n'aurait-elle jamais dû le laisser derrière eux. Sans doute ne le reverrait-elle jamais. Lui en voulait-il? Si seulement elle avait pu lui parler plus longuement et savoir ce qu'il pensait d'elle en vérité. Mjoln disait qu'il l'aimait. Devrait-elle un jour choisir entre l'amour d'Erwan et la vie de fuite éternelle à laquelle elle semblait être vouée? Elle lâcha un long soupir et s'obligea plutôt à considérer ce que l'avenir pouvait comporter de simple bonheur. Providence. Le nom de la ville lui-même était porteur d'espoir. Elle allait sans doute y retrouver enfin Amine, son amie d'enfance. Avec elle, elle oublierait certainement le Samil d'Anak et les mille difficultés qu'elle devinait proches. Avec l'aide de Félim et Galiad, elle parviendrait peut-être même à se débarrasser des Magistels et des Erilim qui étaient encore à sa poursuite. Ensuite, elle partirait pour le Mont Tombe afin d'y apprendre à lire. L'avenir pouvait être simple, si seulement la Moïra voulait bien lui donner ce choix. En fin d'après-midi, Galiad décida de faire marcher les chevaux au pas afin qu'ils puissent se reposer d'un galop si long. Ils en profitèrent tous pour discuter, alors que le soleil disparaissait à l'ouest derrière les montagnes de Gordraka. Ce fut d'abord Galiad qui vint placer son cheval à côté du poney de Mjoln.
Vous n'êtes pas trop fatigué ? Demanda-t-il poliment en regardant le nain, couvert de sable et de poussière.
Moi, ça va, mais le poney, lui, m'a l'air à bout de force. Il a beau être solide, une journée de galop, c'est jamais très bon. Ah, il faut dire que je pèse un peu. Ah, voyez-vous ?
Le magistel haussa les épaules. Vous l'avez appelé Alragan, n'est-ce pas ?
Ah,
acquiesça le nain. « J'ai déjà entendu ce nom quelque part, » déclara le magistel.
« Je crois me souvenir que c'est le cri de guerre des anciens guerriers nains. Je me trompe ?»
Mjoln s'étonna.
« Non, vous avez raison. C'est le cri que nous poussions dans mon village quand les Gorgounes nous attaquaient. Mais comment le savez-vous ?»
Le magistel parut ravi que le nain lui pose la question. C'était comme s'il avait espéré pendant des années pouvoir enfin trouver quelqu'un avec qui parler de cela. Comme si on lui permettait enfin de se débarrasser d'un secret, ou plutôt d'un souvenir douloureux.
J'ai longtemps combattu aux côtés d'un nain, pendant la guerre d'Arcourt, avant d'être choisi comme magistel par Félim. Adnal. Il s'appelait Adnal.
Le nom ne me dit rien.
Il devait avoir votre âge, ou peut-être était-il un peu plus âgé. À moins que ce ne soit les armes et la guerre qui lui aient donné quelques rides prématurées. Il était si courageux. Les hommes d'Arcourt ne lui faisaient pas peur, quelle que soit leur taille, vous pouvez me croire. Et quand il lançait son cri de guerre, il nous entraînait tous dans sa rage guerrière. Si tous les soldats de la galaxie avaient été comme celui-là, Arcourt n'aurait jamais remporté cette guerre, c'est certain. J'aurais donné ma vie pour ce nain. Je lui vouais autant de respect que j'en voue aujourd'hui à Félim. Il faut croire que je suis né pour ça. Offrir ma lame à un homme valeureux. Car il était valeureux.
Vous parlez au passé ? Il est mort ?
Non, je ne crois pas. Je suppose qu'il vit maintenant paisiblement quelque part dans le sud.
Paisiblement ?
S'étonna Mjoln.
Bah, cela m'étonnerait. Quand un nain a goûté à l'aventure, il ne peut plus s'en passer. Ahem ! Nous avons ça dans le sang. Certains ne se l'avouent pas et restent cachés dans leurs collines, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je me renseignerai sur votre Adnal et je vous dirai ce qu'il fait aujourd'hui. Après tout, vous le retrouverez peut-être ?
J'ai déjà l'impression de l'avoir retrouvé. Vous me faites penser à lui.
Mjoln éclata de rire.
Tous les nains se ressemblent, c'est ça ?
Galiad se mit à rire à son tour. Plus loin, Aléa se décida à parler de nouveau avec le druide. Elle regrettait de lui avoir répondu si sèchement le matin même, et des milliers de questions continuaient de la hanter. « Quand vous débattiez de mon sort dans la chambre du conseil, commença-t-elle.
« J'ai fait ce que j'ai pu, » la coupa Félim, qui semblait soulagée de voir la jeune fille lui adresser enfin la parole. « L'archidruide avait sans doute ses raisons, que nous ne pouvons comprendre et...
« Félim, ce n'est pas de cela que je veux vous parler. » À un moment de votre conversation,
L'un de vous, je crois que c'était Hernan, a fait référence à l'encyclopédie d'Anali, quand l'archidruide a dit que le Samil d'Anak ne pouvait pas être une femme.
Félim eut un geste de recul. La jeune fille continuait de le surprendre. Encore une fois, elle avait relevé le point le plus important de toute cette conversation. L'intervention d'Hernan, l'archiviste.
L'encyclopédie d'Anali est un livre un peu spécial, commença Félim en détournant les yeux. Anali était un Samil d'Anak. Il a rédigé une encyclopédie que le Conseil a interdite des années plus tard parce qu'elle est contraire à la tradition orale.
Elle révélait trop de secrets ?
Je ne sais pas si on peut le dire ainsi, bredouilla Félim.
Qu'y a-t-il donc dans ce livre qui concerne le fait que le Samil d'Anak peut ou ne peut pas être une fille ?
Je n'ai pas lu ce livre, puisqu'il est interdit.
Le druide fronça les sourcils et interrogea à son tour la jeune fille.
Est-ce pour cela que tu veux aller au Mont-Tombe ?
Ne détournez pas ma question, Félim. J'en ai assez de vos méthodes de druide. Je vous ai posé une question simple et vous me répondez par une autre question. Je ne suis plus la petite fille naïve que vous êtes venue chercher à Saratea. Alors répondez à ma question. Qu'y a-t-il dans ce livre qui a retenu l'attention d'Hernan ? Vous devez bien le savoir, même si vous ne l'avez pas lu.
Le druide la dévisagea longuement. Il se dit qu'il n'arriverait jamais à s'habituer. La jeune fille progressait rapidement et comprenait davantage de choses qu'elle ne le laissait croire.
« Vraiment, Aléa, je doute que quiconque le sache réellement au sein du Conseil. Et c'est pour cela qu'Hernan l'a mentionné discrètement, sachant pertinemment que l'archidruide allait le couper. Hernan a dû apercevoir quelque chose qu'il aimerait que nous regardions de plus près. Aucun druide ne connaît l'encyclopédie d'Anali officiellement. » De plus, des paragraphes entiers sont écrits en langage codé. Il faudrait des années avant de pouvoir tout décrypter.
Vous n'avez pas la moindre idée de ce à quoi il faisait référence ?
De nouveau, Félim eut l'impression que la jeune fille avait deviné exactement ce qu'il tentait de passer sous silence. Elle avait peut-être ressenti le doute qui habitait le druide. Il se souvenait vaguement d'une légende qui concernait une jeune fille et la Moïra. Une légende parmi tant d'autres. Mais une légende que le Conseil n'aimait pas évoquer.
Il y a plusieurs légendes concernant des jeunes filles choisies par la Moïra, Aléa, et Hernan y faisait peut-être allusion. Je n'en sais vraiment pas plus.
Vous n'en savez pas plus, mais vous avez sûrement des hypothèses.
Je croyais que tout ce qui t'intéressait, c'était d'aller à Providence. Serais-tu finalement plus attirée par les légendes ?
Non. Je suis agacée par les mystères qui m'entourent et auxquels vous êtes incapable de répondre. Les druides n'en savent finalement pas plus que le commun des mortels. Quel est le sens du symbole sur ma bague ? À quelle légende Hernan faisait-il allusion ? Comment puis-je être le Samil d'Anak si je suis une fille ?
N'en sois pas si certaine. On ne peut se proclamer Samil d'Anak sans s'être soumis aux manites de Gaba. Et tu es une fille.
Aléa ne répondit pas. Elle se contenta de regarder au loin la ligne d'horizon.
« Il y a un lien entre tout cela, j'en suis sûre, » reprit-elle finalement. « Rien n'arrive par hasard. C'est votre conception des choses, n'est-ce pas ? Rien n'arrive par hasard. »
Le bruit des sabots sur le sable étouffait sa voix.
« Pas pour le moment, en tout cas, » ajouta-t-elle tout bas.
Félim tourna la tête vers la jeune fille. Il se demanda s'il avait bien entendu. Aléa semblait n'avoir pas parlé. Son visage était triste et immobile, son regard perdu au loin. Avait-il rêvé ses dernières paroles, ou bien les avait-elle réellement prononcées ? Et dans ce cas, qu'avait-elle voulu dire ? Félim aurait tant voulu parler ouvertement à Aléa. Que l'un et l'autre se disent tout ce qu'ils savaient, pensaient, espéraient. Mais chaque jour, la jeune fille se durcissait davantage, et Félim lui-même avait du mal à affronter une réalité qu'il craignait.
« Arrêtons-nous ici !» proposa soudain Galliad. « Il y a tout ce qu'il faut alentour pour faire un campement. Les chevaux ont bien mérité de se reposer. »
Ils descendirent tous de leur monture et s'installèrent dans une prairie, à l'écart du chemin.
« Galliad, on nous surveille toujours, n'est-ce pas ?»
demanda Félim alors qu'il s'était agenouillé pour poser une main au sol.
« Je pense. Une personne seule. Elle nous a suivis toute la journée, de loin. » Je n'arrive pas à la voir, mais je sens sa présence. Un soldat, peut-être. Un bon pisteur, en tout cas.
Ce n'est sûrement pas l'un des magistèles de Saïmina, il nous aurait interpellés depuis longtemps.
Peut-être,
acquiesça le druide sans conviction.
Ce ne pourrait pas être votre fils.
Vous ne l'auriez pas repéré. Je l'ai mieux entraîné que ça, rétorqua fièrement le magistèle.
La personne qui nous poursuit fait tout de même plus de bruit qu'Erwan.
Espérons simplement que ce n'est pas un Erilim.
Ce n'est pas leur méthode, mais c'est peut-être un espion envoyé par Maol Morda. Le nain frissonna.
Ce nom me fut froid dans le dos,
avoua-t-il. Aléa s'approcha de lui avec un sourire gêné.
Je suis désolée de t'avoir attiré dans toute cette histoire.
Sottise! Je suis heureux d'être avec toi, Aléa. Ce n'est pas parce que ce nom me glace les sangs que cela gâche mon plaisir d'être avec ma lanceuse de cailloux. Taha, ne te fais pas de soucis, va. Je suis plus inquiet pour toi que pour moi.
Tu as l'air si triste depuis hier.
Ah, oh, je vois.
Quelqu'un te manque, n'est-ce pas?
Si seulement il n'y avait que cela. Oui, bien sûr, Erwan lui manquait. Elle avait en tout cas le sentiment d'être partie au moment où elle aurait pu lui parler davantage. Peut-être même lui dire qu'elle l'aimait. Mais ce n'était pas là son souci principal. Ce qui l'attristait vraiment, c'était de devoir mettre ainsi la vie de Mjoln, Galiad et Félim en péril. Après tout, maintenant qu'elle avait quitté Kerry et Tara, ils étaient tout ce qu'elle avait comme famille. Même Félim, malgré les 1000 reproches qu'elle voulait lui faire. Elle avait beau être la plus jeune personne de cette compagnie, elle s'en sentait responsable. Parce qu'elle était au centre de tous les problèmes qui se posaient aujourd'hui. Et à cause d'elle, les gens qu'elle aimait le plus se trouvaient eux aussi dans ce traquenard. Aléa aurait voulu penser à autre chose, pour offrir à ses amis un visage souriant, mais elle ne parvenait pas à oublier les fantômes qui la pourchassaient depuis Saratea. Elle espérait seulement que Providence pourrait leur apporter un peu de liberté. Elle demeura préoccupée pendant tout le dîner et partit se coucher avant tout le monde. Avant de s'allonger, elle salua Galiad, qui avait décidé de monter la garde toute la nuit, espérant surprendre enfin la personne qui semblait les surveiller. Elle s'endormit très vite et plongea aussitôt dans un rêve étrange. Aussi vif et intense que celui où elle avait vu Erwan avant même de le rencontrer. Un rêve qui n'en était pas tout à fait un.
Je suis assise dans l'herbe devant la forêt de Brosselia. Je n'ai jamais vu la forêt de Brosselia, et pourtant je sais que c'est bien elle. J'en suis convaincue. Brosselia. Ce nom, les sylves, s'impose simplement à mon esprit, comme soufflé jusqu'à moi. Le soleil peine à passer à travers un ciel de plomb. Le vent pousse dans mon dos, je le sens, la Moïra. Comme une présence derrière moi. Il souffle si fort que si je marche, il m'aidera à avancer. Oui, ainsi est ce vent. Il souffle, mais ne dicte pas. Sur ma gauche, il y a une petite fille, moi, qui joue toute seule dans un pré qui s'étend si loin que je n'en vois pas les limites. Elle court en faisant rouler un cerceau à l'aide d'un bâton de bois. Je vois bien à son visage qu'elle rit aux éclats, mais je n'entends aucun son de ce côté-là. Elle, moi, me ressemble. Mais elle est jeune et heureuse, insouciante. Le ciel s'assombrit encore. Une louve, Imala, apparaît à quelques mètres de moi. Je la reconnais. Cette fourrure blanche, je l'ai déjà vue. Ici. Dans le monde, Jar, des rêves. Elle s'avance lentement. Cette fois-ci, elle m'a vue, et c'est vers moi qu'elle avance. Et quand elle est si près que je pourrais la toucher, elle se retourne lentement, m'invite à la suivre. Je me lève. Ou peut-être est-ce le vent, Moïra, qui me pousse. Je vais si vite, aussi vite que la louve. Nous plongeons dans le cœur de la forêt. Les branches des arbres me fouettent le visage. Je ne vois plus rien autour de moi. Tout va trop vite. Je sais seulement que je suis derrière la louve blanche. Il y a des cris, des rires autour de moi. Des chants. Le craquement des branches qui se plient contre mon corps. les feuilles qui se frottent à mon visage. Je ne sais plus où je suis. Puis soudain, la louve s'arrête. Je relève la tête. Nous sommes au milieu d'une clairière envahie par les rayons du soleil. La voûte obscure des nuages a disparu. Le vent s'est éteint. Il n'y a plus que moi et un Sylve, homme devant moi. Il caresse la louve. Il me sourit. Aléa, il n'y a plus de temps à perdre. Il connaît mon nom. Je sais qu'il parle une autre langue et pourtant je comprends ce qu'il dit. La louve aussi. Tu dois venir ici, Kailiana. C'est ici que tout est né. Pourquoi m'appelle-t-il Kailiana à présent? Je voudrais lui parler, mais mes lèvres refusent d'obéir. C'est ici que tout est né, au cœur de l'arbre de vie. Nous t'attendons, Kailiana. Et comment le trouverai-je? Je dois lui demander. Mais je ne peux toujours pas parler. Pourtant, je crois qu'il a compris. Il sourit de nouveau. Je suis Oberon. Il n'y a plus de temps à perdre. Et cette dernière phrase se répète comme un écho dans la montagne. Il n'y a plus de temps à perdre. Aïn Sultor et les trois autres cavaliers attendaient depuis 2 jours dans leur campement près de la presqu'île de Saïmina. Après leur arrivée, un temple de lierre et de bois s'était levé devant le prince des Érylim. La terre était encore avec lui. Une partie au moins lui obéissait toujours. Les serpents, les vers et les insectes de la forêt grouillaient autour de l'édifice feuillu, tournaient lentement comme des douves vivantes et ne s'écartaient que pour laisser entrer ou sortir les Érylim. La forêt s'emplissait petit à petit d'une puanteur humide qui faisait fuir les derniers mammifères. Le monde, lentement, pourrissait partout où il s'arrêtait. Le soir de leur arrivée, Aïn Sultor s'était accroupi et avait plongé les mains dans la terre. Le sol avait tremblé autour de lui et soudain des rats avaient jailli par dizaines à ses pieds. Il les avait caressés en silence, puis il avait chuchoté quelques courtes paroles. Il s'était ensuite relevé alors que les rongeurs disparaissaient vers Saïmina, messager nocturne du prince des Érylim. Un veilleur se cache dans l'antre des impurs, avait-il expliqué à ses hommes. C'était ainsi que les Érylim désignaient les druides, les impurs. Jadis, les Érylim avaient appartenu à l'ordre des druides. Ils avaient siégé ici même. Un jour, un jeune druide avait découvert que le Saïman permettait, à qui savait le maîtriser en ce sens, non plus seulement de fouiller, mais de s'emparer de l'âme d'un humain. Ce jeune druide, enivré par son propre pouvoir, se trouva bientôt envahi par une ambition dévastatrice et quitta la chambre du conseil pour former un nouvel ordre. Celui des Érylim, qui se nourrissaient comme lui d'âmes humaines. Ils se mirent à traiter d'impurs leurs cousins druides, qui, eux, continuaient de manger le fruit de la terre. Pendant des générations entières, les deux ordres avaient appris à se détester, et Sultor espérait bien aujourd'hui qu'il pourrait renverser la chambre avec l'aide de Maol Morda. Mais il fallait d'abord trouver la petite peste. Les 4 hommes commençaient à s'impatienter quand enfin ils aperçurent, au soir du 2e jour, la silhouette d'un homme qui avançait vers leur temple vivant. Par prudence, Sultor mit la main sur le pommeau de son épée.
« Qui va là ? »
lança-t-il. « Mon nom vous importe peu. Je suis le veilleur de Saïmina. C'est mon message qui vous intéresse, pas mon identité. » Puis il siffla le signal des veilleurs afin de rassurer Sultor. Mieux valait ne pas énerver le prince des Érylim, songea-t-il sans doute.
Tu as mis du temps à venir, veilleur, gronda Sultor. C'est-à-dire que vous tombez au mauvais moment. La vie à Saïmina n'est pas de tout repos ces temps-ci. Et pour ce qui est de l'information que vous êtes venu chercher, voici ce que je puis vous dire. La jeune fille s'est enfuie juste avant votre arrivée. Elle était avec ce nain qui l'accompagne partout. Le lendemain, Félim et son magistel Galliad ont disparu et il y a fort à parier qu'ils sont partis les rejoindre. Dans quelle direction? Je l'ignore. La chambre pense qu'ils sont partis vers le sud. Je suppose qu'ils ont raison, c'est tout ce que je puis dire. Et il n'ajouta pas un seul mot,
et repartit aussitôt dans la nuit noire vers le palais des druides, sous le regard sombre des quatre Eridim. Sultor partit détacher son cheval et ordonna aux autres.
« Nous devons la trouver au plus vite !»
Quand ils furent partis, le temple de buissons putrides et d'insectes s'affaissa derrière eux, comme un château de cartes. Aléa et ses trois compagnons galopèrent encore tout le jour suivant. Petit à petit, ils voyaient se dessiner devant eux le profil majestueux de Providence, la grande capitale. Le paysage devenait de plus en plus vallonné à mesure qu'ils avançaient vers le sud-ouest, et des fermes aux murs de pierre s'érigeaient ici et là, parmi les vignes et les cultures. Les quatre voyageurs croisaient à présent de nombreux Galaciens. Plus on approchait de Providence, plus les habitations se densifiaient. La jeune fille ne savait si elle devait se réjouir à l'idée de voir enfin la ville tant espérée, ou céder plutôt au sentiment de panique que lui avait inspiré le rêve de la nuit précédente. Elle entendait encore les paroles du Sylve. « Il n'y a plus de temps à perdre. » Malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Erwan. C'était encore l'urgence et la panique qui l'avaient éloignée de lui. En somme, l'urgence lui dictait sa vie. Comme elle aurait voulu revoir la longue chevelure blonde du jeune homme. Chaque fois qu'elle voyait Galiad, dont les cheveux noirs étaient coiffés de la même manière, elle ne pouvait repousser le souvenir d'Erwan. Elle regardait le magistel et se demandait s'il savait combien elle aimait son fils. Elle aurait voulu lui en parler. Peut-être aurait-il su la rassurer. Mais Galiad semblait trop préoccupé par leurs poursuivants. Le guerrier avait fouillé toute la nuit les environs du camp, sans succès. Depuis leur départ, il ne cessait de se retourner, de lancer des regards à droite ou à gauche, de s'éclipser quelques instants dans les bosquets pour réapparaître, la mine grave. Chaque jour, il ressemblait de plus en plus à un guerrier, et de moins en moins au père qu'il était aussi. Comme si le voyage, à chaque nouveau pas, le transformait en machine de guerre. Aléa n'osait plus lui parler. Elle passa donc la journée à côté de Mjoln, essayant d'oublier ses sombres pensées en écoutant les histoires interminables du nain que le voyage suffisait à rendre jovial. Le cornemuseur semblait ne jamais pouvoir venir à bout des milliers d'histoires que sa vieille mémoire avait emmagasinées. Quand ils arrivèrent en vue de Providence, la nuit était tombée plus tôt que Galiad ne l'avait prévu, et ils décidèrent d'attendre le lendemain pour entrer dans la ville. Au loin, on voyait quelques lumières dans les maisons hautes de la capitale. La silhouette de Providence n'avait rien à voir avec celle d'un petit village comme Saratea. C'était un ensemble large et profond, qu'on ne pouvait embrasser d'un seul coup d'œil, et le ciel lui-même semblait former un halo plus clair tout autour de la ville. Aléa resta un long moment à admirer le profil glorieux des riches demeures endormies. Comme la veille, ils installèrent leur camp autour d'un feu, en retrait du sentier.
« Cette fois-ci, je ne vais pas laisser notre espion se cacher toute la nuit, » déclara Galiad d'une voix grave et profonde. « Félim, si vous me le permettez, je ne serai pas des vôtres cette nuit. »
Le druide parut amusé par l'impatience de son magistel.
« Galiad, je préfère vous savoir près de nous qu'en vadrouille à la recherche d'un fantôme. »«
Ce n'est pas un fantôme. Vous l'avez senti tout comme moi. Quelqu'un nous suit depuis 2 jours. »
Il n'a pas l'air de nous vouloir de mal pour l'instant. Laissons-le commettre une imprudence. Nous l'attraperons à ce moment-là. Si vous partez en chasse cette nuit, quelqu'un pourrait profiter de votre absence pour nous tomber dessus. Allons, Galiad, vous finirez bien par avoir notre chasseur. »
Le magistel acquiesça sans se plaindre. Pour rien au monde, il n'aurait désobéi à Félim. Il n'aurait même pas osé discuter davantage. Mais il ne pouvait plus supporter de sentir cette présence invisible, insaisissable, qui les narguait depuis trop longtemps. Il s'assit toutefois près d'Aléa et l'aida à préparer leur modeste dîner. Lapin, cèpe et marron, comme la veille. L'arbre de vie existe-t-il vraiment? Demanda la jeune fille au druide, comme celui-ci s'asseyait à son tour.
Que nous vaut cette étrange question?
S'étonna le vieil homme en attrapant le gobelet de vin que le nain lui tendait.
« J'ai fait un rêve très... réel. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est la deuxième fois que je fais un rêve comme celui-là. La première fois,
certaines des choses que j'avais vues dans mon rêve se sont réalisées. Et je crois bien que Mahol Mordain en faisait partie.
Galliad adressa un regard inquiet au druide, de l'autre côté du feu.
Cette nuit, j'ai rêvé qu'un sylve, qui disait s'appeler Oberon, me demandait de venir à Brocélia. Mais ce n'était pas vraiment un rêve. Je crois que... Comment dire ?
Elle regarda le druide d'un air gêné.
Je crois que les sylves m'appellent vraiment là-bas.
Félim sembla embarrassé.
À Brocélia ?
Oui. Pourtant, je dois aller à Providence. Est-ce que cela a un rapport avec la légende dont parlait Hernan ?
Insista la jeune fille.
Aléa, ce n'était peut-être qu'un simple rêve. Tu as entendu tant d'histoires, tant de choses ces derniers jours que ton imagination te joue des tours. Le jour où tu as trouvé Ylvain, il t'est arrivé quelque chose, je veux bien le croire, et je voudrais même le comprendre. Mais ne va pas trop vite, ne te laisse pas emporter. Ce sont les faits que nous devons d'abord analyser, pas les rêves.
D'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question. L'arbre de vie existe-t-il réellement ?
Ces choses-là, tu devras les découvrir par toi-même s'il le faut. Ces choses-là, les légendes auxquelles tu fais référence, sont le fruit d'un enseignement. Un enseignement qui a un sens symbolique profond. On ne peut pas parler ainsi de l'arbre de vie. Tu veux savoir s'il existe ? Cherche-le !
Vous parlez encore en énigmes. Ce n'est pas la réponse à la question que je vous ai posée.
Les énigmes sont les meilleurs moteurs à la réflexion. Je n'ai pas de réponse à t'offrir. Je n'ai qu'une méthode à te proposer.
Pourtant, vous en savez plus que vous ne voulez bien l'avouer.
Je ne suis sûr que d'une chose, Aléa. Tu es en danger. Et plutôt que de chercher de nouveaux problèmes, tu ferais mieux de nous aider à te protéger.
C'est vous qui vouliez savoir comment j'ai trouvé la bague d'Ylvain. C'est vous qui m'avez fait fuir de Saratea pour connaître la vérité. La vérité ne vous intéresse plus aujourd'hui ? Ou bien vous fait-elle peur ?
J'ai peur pour ta vie, et cela me suffit.
Rétorqua Félim sur un ton sévère qui signifiait clairement que la conversation était close. Aléa pesta. Elle ne pouvait plus supporter l'entêtement du druide. Elle se leva brusquement pour aller donner à manger aux chevaux. Elle voulait s'éloigner un moment du vieil homme. Elle attrapa des grains d'orge dans le sac de Galliad et les tendit maladroitement à son poney. Le magistel apparut derrière elle et lui prit délicatement la main. « Tendez bien les doigts et laissez les grains sur votre paume aplatie. Ainsi le poney ne risque pas de vous mordre », lui conseilla-t-il à voix basse. La jeune fille fit comme il disait. La jument ne fit qu'une bouchée des grains qu'elle lui offrait, puis donna de petits coups de museau contre le flanc d'Aléa.
« Non, » dit-elle en riant, « ça suffit, Julia, tu en as eu assez. »
« Les poneys, » chuchota Galliad sur le ton de la confidence, « sont presque aussi têtus que les druides, vous savez. » La jeune fille sourit au magistel. Il avait les mêmes gestes, la même attention que son fils. Elle était étonnée par le contraste entre leur statut sévère et la générosité de leur cœur. Elle haussa les épaules et prit d'autres grains dans le grand sac pour nourrir le poney de Mjoln. Le magistel était toujours là, derrière elle. Visiblement, il était quelque peu gêné par l'attitude de Félim et voulait rester auprès de la jeune fille pour lui apporter le réconfort dont elle avait besoin. Aléa se sentait bien auprès de lui, rassurée. Si bien qu'elle en vint presque à oublier sa mauvaise humeur et pensa plutôt à un souvenir qu'elle avait peine à partager.
« Votre fils ? » commença-t-elle d'une voix timide.
Aléa regretta aussitôt d'avoir osé aborder le sujet et ne sut comment continuer. Elle sentit le rouge monter à ses joues.
« Il vous manque. »
Elle releva doucement le visage. La lune se reflétait dans le bleu de ses yeux.
« Oui. »
Galliad parut soulagée. Visiblement, il n'était pas très à l'aise, lui non plus. C'était sans doute la première fois qu'il parlait ainsi de son fils à une jeune fille.
« À moi aussi, il me manque. C'est idiot, n'est-ce pas ? Si vous me laissez vous protéger, alors je vous jure que nous retournerons le voir ensemble. Vous voulez bien ?»
Aléa acquiesça. Soudain, une branche craqua à quelques mètres du camp. Galliad se dressa d'un bond et dégaina son épée. La silhouette d'un cavalier se profila à côté d'un arbre, à l'orée du petit bois qui jouxtait le camp. On ne pouvait voir son visage, caché par l'ombre des branches. La lame effilée d'une épée se dessina le long de l'inconnu, de sa taille jusqu'à sa cheville. Il n'avait pas sorti son arme, mais son silence et sa stature avaient quelque chose de menaçant. Félim se leva, bientôt rejoint par le nain.
« Qui va là ?»
lança Galliad en essayant de distinguer le visage enfoui dans l'obscurité. Un silence s'ensuivit qui parut une éternité. On n'entendait que le chant monotone des grillons dans le froid de la nuit.
« Vous ne pouvez pas aller à Providence, »
déclara finalement la silhouette en guise de réponse. C'était la voix d'une femme, mais cela ne rassura pas Galliad pour autant. Il s'avança lentement, l'épée dressée devant lui. Il allait peut-être enfin attraper la personne qui les espionnait depuis 2 jours. Il n'y avait pas de doute, c'était bien elle. Il avait reconnu le bruit de ses pas. Pas étonnant toutefois qu'il ait eu tant de peine à la retrouver, pensa-t-il. Nul n'est jamais aussi discret qu'une femme.
« Déposez votre arme à vos pieds, » lui intima-t-il. « Et quand vous vous serez présenté, nous verrons si vous avez votre mot à dire concernant notre destination. »
« Quel accueil charmant, messire Galliad Aldaman !» railla la femme. « On raconte pourtant que vous êtes né de noble famille. Qu'avez-vous fait de vos manières ?» La discussion sembla amuser Félim, qui, tout sourire, se rassit rapidement près du feu sans rien dire.
« Je ne suis jamais courtois avec les espions de votre acabit, » reprit Galliad d'un ton méprisant. « Vous connaissez mon nom ?» Vous ne m'avez même pas donné le vôtre et vous osez parler de bonne manière. Je ne vous le répéterai pas 2 fois. Posez votre arme à terre, madame.
Mais Aléa s'avança et vint retenir le bras du magistel.
Galliad, vous pouvez ranger votre épée. Je connais cette voix. Elle ne peut appartenir qu'à une seule personne. Une barde.
Elle s'avança vers le petit bois et ajouta.
Bonsoir, Face.
« Bonsoir, Aléa, » répondit la jeune femme en sortant finalement de l'ombre, découvrant alors les traits délicats de son long visage et la cascade soyeuse de sa chevelure rousse. Elle était entièrement vêtue de noir, un tissu léger qui lui collait à la peau. C'était une femme belle et élégante. La Moïra avait mis autant de grâce dans sa silhouette que dans les traits de son visage. En la voyant, Aléa se rappela soudain l'histoire que la barde avait racontée aux clients de l'auberge de Sarathea.
L'histoire d'Oberon, le roi des Sylves. Celui-là même qui lui était apparu en rêve la nuit précédente. Se pouvait-il que ce soit une coïncidence?
Pourquoi ne portez-vous pas le costume des bardes, si Aléa dit vrai?
Demanda Galliad, toujours méfiant.
Parce que j'ai quitté mon métier, monsieur.
Mais Galliad, qui n'avait d'autre choix que la méfiance pour protéger son maître et la jeune fille, continua son interrogatoire.
« Et puis-je savoir pourquoi vous n'êtes plus barde? C'est un métier qu'on quitte rarement. »«
Les magistels ne savent-ils plus faire la différence entre la méfiance et l'outrecuidance ?»
demanda Face.
« Ou bien n'êtes-vous encore qu'un apprenti maladroit ?»
Galliad ne se laissa pas démonter et durcit le ton.
« Je vous ai posé une question. Si vous ne voulez pas y répondre, vous pouvez passer votre chemin. Je répète, pourquoi n'êtes-vous plus barde ?»
Aléa tira sur son bras.
« Galliad, calmez-vous, je vous dis que je la connais. »
Mais Face, visiblement amusée, se décida à répondre.
« Je ne suis plus barde parce que je me suis fixé un autre but. »
« Est-ce pour ce but que vous nous suivez depuis 2 jours ?»
En partie, oui. Je dois parler à Aléa, et je voulais savoir d'abord avec qui elle voyageait.
Et pourquoi ?
Allait continuer le magistel quand Aléa lui coupa la parole en s'énervant.
Ça suffit, Galliad. Vous avez posé assez de questions. Je veux inviter Face parmi nous.
Le magistel parut fort surpris, mais il se résigna, la mine grave.
Venez, Face, reprit la jeune fille. Nous pourrons parler de tout cela autour du feu quand je vous aurai présenté mes amis.
Félim se décida enfin à parler.
« Bienvenue parmi nous, ma sœur !»
déclara-t-il tout sourire, en lui faisant signe de prendre place. Les bardes, les druides et les vates s'appelaient toujours ainsi, en vertu de leur rang.
« Bienvenue. Ce n'est apparemment pas la vie de tout le monde, » glissa Face sournoisement.
« Mon magistère ne fait que remplir son devoir. Veuillez l'en excuser. Il nous reste un peu de lapin. Voudrez-vous bien vous joindre à notre repas ?»«
Avec plaisir. Je vous avoue que je n'ai pas mangé grand-chose depuis 2 jours. J'étais trop occupée à ne pas me faire repérer par votre chien de garde. »
Mjol ne put retenir un éclat de rire. La barde lui plaisait déjà. Galliade, en revanche, trouva la réplique beaucoup moins à son goût. Il s'assura que personne d'autre ne se cachait dans les bois et rangea son épée à contre-cœur.
« Vous connaissez donc Galliade et Félim ?» commença Aléa, alors qu'il s'était remis à manger.
« De réputation, surtout, » répondit la barde.
« Toutefois, je vous voyais beaucoup plus grand, » ajoutait-elle avec un sourire ironique en s'adressant au magistel.
« Je vous présente Monsieur Mjoln Abak, le cornemuseur. C'est mon... Eh bien, je crois pouvoir dire que c'est mon meilleur ami. Il m'accompagne depuis mon départ. Je pense que vous devriez vous entendre, il rêve de devenir barde.
Espérons qu'un jour je pourrai vous enseigner cela, » dit Face poliment. Le nain frappa dans ses mains de bonheur.
La jeune femme prit place parmi ses hôtes et mangea avec eux. Quand le repas fut fini, Félim lui demanda de leur expliquer enfin ce qu'elle voulait à Aléa.
« Je vous expliquerai tout cela, » répondit la barde. « Mais ce n'est pas le plus urgent. Je dois d'abord vous convaincre de ne pas aller à Providence. »«
Et pourquoi ?»
s'étonna Aléa, que l'idée n'enchantait guère.
« Parce que vos 4 têtes ont été mises à prix par le haut roi et que votre portrait est affiché sur tous les murs de la capitale. »
La nouvelle étonna tout le monde. Félim lui-même parut surpris.
« Par le roi ?»
s'écria Mjoln.
« Ma tête à moi aussi ?»
Faye s'acquiesça, embarrassée.
« Qui a bien pu ordonner cela ?»
reprit le nain.
« Ah ! Nous n'avons rien fait au roi que je sache !»«
Je ne vois que 2 explications possibles, » déclara Félim, l'air soucieux. « La première, c'est que la chambre du conseil a demandé au roi Eogan de nous retrouver. »
« Et la seconde ?» demanda Aléa, qui craignait malheureusement de connaître déjà la réponse.
« Si Maol Morda est parvenu à s'infiltrer auprès du roi, il aura très bien pu être à l'origine de cette histoire. En tout cas, vous avez raison maintenant, il est hors de question que nous allions à Providence. »
Aléa soupira. C'était la 2e fois que les événements l'empêchaient de se rendre dans la capitale, et la 2e fois qu'elle devait s'y résoudre, malgré elle. C'était comme si la Moïra ne voulait pas que la jeune fille retrouve enfin son amie d'enfance. Elle vit dans le regard de Mjoln qu'il la comprenait et qu'il était désolé. Pourtant, elle était moins déçue qu'elle aurait dû l'être. Quelque part au fond d'elle, la dernière phrase de son rêve continuait de résonner. Il n'y a plus de temps à perdre. Elle avait peine à l'admettre, mais elle savait que c'était la vérité, qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait se rendre à Brocélia sans attendre. Cette évidence s'imposait à elle comme une fatalité. Sans doute n'avait-elle pas le droit de refuser son sort, parce qu'elle l'avait compris maintenant. Elle bouleversait la vie de bien des gens autour d'elle, et pas seulement la vie de ses amis proches. Ce constat n'était pas un excès d'orgueil. Bien au contraire, elle aurait préféré se passer de tout cela. Chaque jour, elle apprenait que devenir adulte n'était pas devenir libre, contrairement à ce qu'elle avait espéré. Il s'agissait plutôt de céder aux obligations qu'imposait le destin. Des obligations de plus en plus nombreuses et qui impliquaient de plus en plus de gens autour de soi. Devenir adulte. Elle le devait à ses amis. Il n'y avait plus de temps à perdre.
« Soit, » dit-elle en se levant. « Nous n'irons pas à Providence. »
Félim adressa un sourire à la jeune fille.
Il y eut dans son regard une tendresse et une sincérité qu'Aléa n'avait vue qu'une seule fois. Le jour où il lui avait offert la broche qu'elle portait toujours à la poitrine. Elle devina qu'il était heureux de l'avoir fait preuve de sagesse, tout simplement, de maturité. Pourtant, aujourd'hui, elle aurait tout donné pour redevenir une enfant.
« Faith, reprit-elle, vous vouliez me parler tout à l'heure ?»
La barde parut gênée.
« Je ne sais pas si c'est le moment. »«
C'est si important que ça ?» demanda Aléa. Faith leva un sourcil, visiblement froissé.
« Je ne sais pas si c'est important à tes yeux, mais c'est douloureux pour moi, Aléa. Une barde ne quitte pas son métier pour un oui ou pour un non. Je n'ai pas l'habitude de parcourir le royaume entier à la recherche d'une jeune fille pour une question sans importance.
Je suis maladroite, pardonnez-moi. Vous préférez que nous en parlions demain ? Proposa la jeune fille.
Non. Après tout, je garde tout cela au fond de moi depuis trop longtemps. J'ai besoin d'en parler avec toi.
Aléa, comment te dire cela ?
J'aimerais tellement que tout soit plus simple. L'événement qui m'a poussée à quitter ma caste est fort triste. Il m'a brisé le cœur et je n'arrive plus à penser à autre chose. Malheureusement, je pense qu'il te fera de la peine à toi aussi.
Tara et Kerry, pensa Aléa. Il ne pouvait s'agir que d'eux. Elle pria pour que Faith lui annonce autre chose, mais elle savait déjà que c'était bien cela. Elle adressa à la barde un sourire triste, espérant qu'elle pourrait lui donner ainsi le courage de continuer.
« Je suis prête, » disaient ses yeux. « Vous pouvez parler. »
Faith se leva et se mit à marcher près du feu. Elle pensait sans doute que cela l'aiderait à parler.
« Tara et Kerry. » Les deux aubergistes de Loi et le Grill ont été assassinés le soir de ton départ.
Aléa avait beau avoir deviné ce que la barde allait lui annoncer. L'entendre dire n'en était pas moins épouvantable. Elle se mordit les lèvres en fermant les yeux, espérant retenir les larmes qu'elle sentait monter à ses paupières.
« Je suis navrée, » reprit Faith. J'aurais préféré être porteuse d'une meilleure nouvelle. Mais ils sont morts et aujourd'hui il n'y a que ça qui compte pour moi. Je suis hantée par leurs souvenirs. J'ai juré de venger leur mort, et ton départ précipité était ma seule piste. C'est pour ça que je t'ai cherchée, Aléa. Peut-être pourras-tu m'aider à trouver leur assassin.
Elle se laissa tomber sur le tronc d'arbre où Aléa était assise, et posa sa main sur l'épaule de la jeune fille.
Kerry et Tara étaient mes amis depuis toujours. Ils étaient là le jour où j'ai passé pour la première fois à l'habit bleu des bardes. Ils étaient là à chacun de mes doutes, pour chacune de mes peines. Tant que je n'aurai pas vengé leur mort, je ne reprendrai pas mon métier. C'est la promesse que j'ai faite en trouvant leur corps. Tu comprends?
La voix de Faith se faisait de plus en plus triste et désemparée.
Aléa, tu es ma seule chance de comprendre ce qui leur est arrivé. Il fallait absolument que je te retrouve. La présence de Félim, l'histoire de cette bague que tu avais trouvée dans la lande, c'étaient les seuls événements étranges qui soient arrivés à Sarathea avant leur mort. J'en ai conclu que tout cela avait un rapport. Oh, Aléa, dis-moi seulement si je me trompe.
La jeune fille saisit la main de Faith sur son épaule et pleura sans retenue.
Je ne sais pas, sanglota-t-elle. J'ai bien peur que vous ayez raison.
Aléa avait prononcé ces derniers mots avec difficulté. C'était une responsabilité de plus et la plus lourde à porter. Et à présent, elle allait entraîner quelqu'un d'autre dans ce cauchemar réveillé, la barde. Elle aurait voulu lui dire de fuir et de tout oublier, mais elle savait que Faith n'abandonnerait pas, et encore une fois,
la Moïra semblait avoir déjà choisi à sa place. Faïs devait les accompagner. Elle avait son rôle dans la quête d'Aléa. Le nier serait peut-être plus dangereux encore que de s'y résoudre.
« Il y a trop de choses que je ne comprends pas moi-même », reprit la jeune fille à contre-cœur quand ses pleurs se furent éteints.
« Hé, Faïs, si seulement tu voulais bien nous accompagner, nous pourrions chercher ensemble. Je m'en veux de te demander cela, mais je ne peux pas te mentir. Si tu acceptes, nous t'emmenons dans une histoire aussi compliquée que dangereuse. Mais je suis presque sûre que nous avons le même ennemi. »
« Qui est-il ? »
demanda Faïs impatiente.
« C'est une longue histoire. »«
Ce sont celles que je préfère, » insista la barde.
« Je lui dois au moins la vérité, » pensa Aléa.
« Alors retournons près du feu, » l'invita-t-elle en esquissant un sourire. Aléa fit signe à ses trois amis de s'approcher et laissa passer un moment de silence avant de commencer son histoire. Elle ne voulait pas se tromper dans l'ordre des choses, et la présence de la barde l'intimidait grandement, car elle n'avait pas oublié les talents de conteuse qui faisaient la renommée de Faïs. Mais l'heure était trop grave pour céder à une timidité enfantine, et Aléa prit enfin la parole. « Tout a commencé le matin où j'ai découvert le corps d'Ylvain Ibouran, enfoui dans le sable de la lande. Ylvain était le Samil d'Anak, et il était vieux. Au lieu de léguer en mourant son pouvoir à un apprenti comme le veut la tradition, il est mort seul, au milieu de nulle part. Et ceci déjà est un mystère. » Elle jeta un regard à Félim, essayant de deviner dans ses yeux s'il approuvait ses paroles.
« Continue, »
l'encouragea-t-il. « Quand j'ai trouvé le corps d'Ylvain, je crois que j'ai hérité de son pouvoir. » La barde enleva lentement sa main de l'épaule d'Aléa. « Faïs, » reprit la jeune fille après avoir inspiré profondément. « Je suis le Samil d'Anak. » Ces mots, prononcés avec une troublante certitude, jetèrent un froid dans l'assemblée. Mjoln, se complaisant depuis leur départ de Saïmina dans une innocence confortable qui lui permettait de ne pas trop se poser de questions sur le prodige auquel il avait assisté, manqua de s'étrangler, tant il fut surpris par les propos de la jeune fille. Félim, toutefois, garda son calme, résigné. Quant à Faïs, elle regarda la jeune fille, les yeux écarquillés.
« Par la Moïra, si tu n'étais pas si bien entourée, je dirais que tu te moques de moi, Aléa. Tu te rends compte de ce que tu me dis ? Tu prétends être le Samil d'Anak ?
« Je ne prétends pas, Faïs. Malheureusement, je le suis. Et crois-moi, s'il fallait que je mente, ce serait plutôt pour dire l'inverse. »«
Mais c'est tout bonnement impossible, Aléa, » reprit la barde, médusée. « Le Samil d'Anak ne peut être une fille. » »«
C'est ce que semble croire le conseil des druides. Pourtant, il se trompe. » Et je dois avouer que c'est bien la seule satisfaction que j'en retire. »
Félim voulut intervenir, mais Aléa lui jeta un regard si intense qu'il préféra se taire.
Ayant reçu ce pouvoir qui ne m'était pas destiné, continua-t-elle à l'attention de Faïs, je suis devenue sans le vouloir la cible de bien des convoitises. D'un côté, il y a Maul Morda qui a envoyé des Gorgones et des Erilim à ma poursuite. Je ne serais pas étonnée que ce soit l'un d'eux qui a tué Kerry et Tara pour apprendre où j'étais. De l'autre côté, il y a le conseil des druides. »
Elle marqua une pause et jeta de nouveau un regard froid à Félim.
Ces charmantes personnes, voulant s'assurer que je suis bien le Samil d'Anak, ont décidé de me faire passer une sorte de test, lequel se révèle être mortel. Et moi, je fuis tous ces gens depuis lors. Je fuis sans cesse.
Elle lâcha un long soupir, puis finit par sourire à la barde.
« Voilà, » conclut-elle. « Tu sais tout. »
Faïs resta silencieuse pendant un long moment. Elle essayait de trouver des réponses dans le regard des autres, mais n'y voyait que stupeur et émotion. Un peu de peur, de doute, de compassion. La barde était venue chercher le coupable d'un meurtre, et on lui révélait un drame beaucoup plus vaste. Elle ne savait que dire.
Pourtant, elle ne pouvait rester insensible à la détresse qui se cachait derrière la maturité forcée d'Aléa.
« Je t'accompagne, » déclara-t-elle finalement.
« Où que tu ailles, je t'accompagne. » La décision de Faye eut déjà le mérite de détendre quelque peu l'atmosphère. Tout le monde accueillit la nouvelle avec un sourire, à part Galliad, qui en voulait encore à la barde de l'avoir quelque peu ridiculisée.
« Ça oui, une barde comme compagne de voyage, c'est un rêve, n'est-ce pas ?»«
Je n'ai plus tellement le cœur à chanter depuis quelque temps, » avoua Faith. « Mais je crois qu'il faut savoir parfois oublier ses peines pour goûter un peu au bonheur quand il vient. Et te voir, Aléa, m'emplit de bonheur. Si vous le voulez, je chanterai ce soir pour célébrer notre rencontre. »«
Avec plaisir !»
s'exclama Mjoln, trop heureux de pouvoir terminer la soirée sur une note plus joyeuse.
« J'aimerais me réjouir aussi vite, mais nous ne savons pas où nous irons demain, » l'interrompit Aléa. « Providence semble donc impossible. »«
Tu voulais aller à Brocélia ?»
risqua Félim. Aléa s'étonna de la suggestion du druide. Bien sûr, elle n'avait d'autre idée en tête que de rejoindre Brocélia au plus vite, mais elle pensait que Félim s'y opposerait violemment. Il n'avait pas semblé très enthousiaste quand elle lui avait parlé de son rêve. Et pourtant, il proposait lui-même de s'y rendre à présent. Qu'y avait-il de différent ce soir ? La présence de la barde ? Félim était si imprévisible.
« Ce pourrait être un bon moyen de se cacher quelque temps, » ajouta le magistel.
« Vous disiez cet après-midi que nul ne savait comment se rendre à l'arbre de vie, » glissa Aléa.
« Qui parle de l'arbre de vie ? Contentons-nous d'aller à Brocélia, et nous verrons bien. Faith connaît cette forêt mieux que quiconque, j'en suis sûre. »
« C'est le privilège de ma caste, » confirma la barde.
Aléa les regarda tous, les uns après les autres. Ils semblaient décidés. Même Jolne paraissait enchantée. Elle ne pouvait s'empêcher de se remémorer son rêve. Il avait eu l'air si réel. Pourtant, l'idée de se fier aveuglément à un songe lui faisait peur. Ce n'était pas le meilleur moyen de se libérer des mystères qui la poursuivaient sans relâche. Mais où pouvait-elle aller, de toute façon? La vie de recherche lancée par le haut roi ne se limitait sans doute pas à Providence. Après tout, Galliad avait raison. Une forêt était sans doute le meilleur abri que le royaume puisse lui offrir.
D'accord. Nous partirons dès demain pour Brocélia, déclara Aléa en s'efforçant de sourire.
Tout le monde parut se détendre, et Faith commença à chanter près du feu. Sa voix, malgré la peine, était toujours aussi juste et délicate, sublime même, et ses chansons étaient plus belles les unes que les autres. Aléa oublia un moment son chagrin, et les autres tombèrent sous le charme. Seul Galliad sembla ne pas s'émouvoir. Il faisait mine de ne pas écouter les chants de la barde et de s'occuper davantage du feu. Après la deuxième chanson, il partit même faire une ronde alentour. La barde chanta tout le soir. Puis elle raconta quelques-uns de ses voyages. Aléa et Mjoln s'endormirent en l'écoutant, le cœur apaisé. Malgré tout, Galliad avait préparé en silence une couche pour la jeune femme et il la lui présenta d'un air fort protocolaire.
« Vous pouvez dormir ici. »«
Vous avez préparé mon lit, Magistel ? » ?»« Après la guerre, voudriez-vous me faire la cour à présent ?» se moqua la barde.
« Est-ce l'espoir qui vous fait vivre ?» rétorqua Galliad avec aplomb.
Faith soupira, en haussant les épaules, et partit se coucher sans lui adresser un seul regard de plus.